L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. On le dit, les temps sont durs pour les produits bio, perçus comme plus chers, ils sont en ce moment délaissés par les consommatrices et consommateurs. Ceci dit, les situations sont différentes selon les points d'achat. Quoi qu'il en soit, on est tiraillé entre la vie plus chère pour cause d'inflation liée notamment au coût de l'énergie en hausse, sur fond de guerre en Ukraine. De l'autre côté, on sait que le climat change dangereusement, que la biodiversité s'effondre dangereusement, que les épidémies animales deviennent omniprésentes, comme la grippe aviaire en ce moment, que l'air, que les rivières sont polluées chroniquement, que ce sont autant de raisons pour revoir nos modes de production agricole et de consommation. Ajoutez-y le facteur santé, que vous comprenez que nous mangeons trop n'importe quoi, donc il faut aussi revoir la transformation des produits agricoles. Alors on a déjà exploré ce thème avec la Maison de l'Agriculture Biologique, notre partenaire du jour, et cette saison on donne la parole aux adhérents et aux adhérents de la MAB. Et c'est le cas de nos invités, dont l'un transforme des céréales en pain. Vous connaissez sans doute ces produits, les pains Canévette. C'est le gérant Yves Canévette qui est avec nous. Et l'autre invité vend, plutôt. Il gère deux biocoop, Biogastel à Plougastel d'Aoulas et celle du relais Kerion, alias Baradosic. C'est Nicolas Balanan. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et bonjour à vous.
Alors, on va parler aujourd'hui des filières agricoles et agroalimentaires, enfin, du bout en bout, on va dire. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est pour les gens qui n'auraient aucune idée de ce que c'est qu'une filière ? Yves Canévette ?
Voilà, je vais essayer de définir ce que c'est. De manière générale, une filière, voilà, ça va représenter un peu tous les maillons de la chaîne, voilà, de l'amont à l'aval, en partant du producteur, l'agriculteur, jusqu'au magasin, voilà, et au consommateur. Et donc selon les filières, selon comment elles sont organisées, il peut y avoir plus ou moins de maillons dans la chaîne, plus ou moins d'intermédiaires, en partant voilà, du circuit court qui peut être très direct, producteur-consommateur, aux filières longues organisées qui peuvent passer voilà, par différents intermédiaires, transformateurs, grossistes, etc. quoi.
Sachant qu'une filière, c'est pas forcément que pour de l'aliment. Par exemple, pour le lin et le chanvre, on en a déjà parlé, parce qu'on en parle aussi sur Radio Évasion, il pourrait y avoir une filière lin. En Bretagne, oui, il y a eu.
C'est en train de renaître, d'ailleurs. Oui, genre.
C'est ça. Oui. Et alors, quelle peut être... Enfin, voilà, vous avez dit il y a autant de sortes de filières que d'aliments, enfin de produits, j'imagine. Quel peut être l'avantage d'avoir une filière complète dans une région ?
Déjà, ça va limiter beaucoup les transports. Si on évite voilà, que des marchandises traversent le pays, voire le monde une fois ou deux fois ou trois fois, ça va, voilà, dans le contexte, comme vous disiez, de climatique où il faut réduire les émissions, ça a cet avantage-là, selon moi. Également, ça va rapprocher un peu le consommateur du producteur et donc ça va donner du sens aussi, je pense, pour le consommateur que voilà, les produits qu'il achète soient produits près de chez lui. Voilà, d'où l'intérêt d'acheter aussi des produits bio et locaux. C'est si on achète des bons produits bio et locaux, bah, les bienfaits sur l'environnement, on en bénéficie directement autour de chez soi.
Nicolas Malanon, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, allez-y. Ouais, chez nous, dans le monde de la bio, on aime bien parler en tant que filière, on part de la fourche à la fourchette.
C'est ça.
Et ça, c'est un terme qui est vraiment intéressant. On peut parler d'emploi aussi. Une filière locale, c'est une filière qui va créer l'emploi, qui aura une valeur ajoutée énorme sur nos territoires. Et ça, c'est très important.
Ouais. Et donc, est-ce qu'il existe, oui, je suppose qu'il existe des filières... complète, alors pas bio ou bio d'ailleurs, hein, en France il en existe quelques-unes quand même qui sont complètes.
Oui, je pense que par exemple en Bretagne on sait que la filière légumes ou la filière viande en fait c'est une région qui s'est spécialisée en fait dans ces filières-là, donc on trouve beaucoup de maillons, tous les maillons de la chaîne en Bretagne, si ce n'est voilà, on peut... Et mettre voilà, sur les filières conventionnelles, on peut dire par exemple l'élevage est très présent, mais on sait qu'on importe beaucoup de soja qui vient par exemple, du Brésil. Donc, c'est une filière qui n'est pas tout à fait complète si on n'intègre pas l'alimentation aussi.
Parce qu'une filière, ce n'est pas seulement le produit lui-même, c'est les fournisseurs, en fait, c'est ça.
Voilà, ça va être tous les fournisseurs, tout ce qui est fournisseurs des fournisseurs. Et voilà, on remonte jusqu'à, voilà, pour l'élevage,
ouais,
l'aliment du bétail, quoi.
Donc, finalement, ça se trouve, il n'existe aucune filière complète, si on est vraiment à ce point-là de définition, en France, en fait.
Par exemple, en tant que filière complète localement, je pourrais parler de BVB, Bretagne de Viande Bio, on parlait de viande tout à l'heure. C'est une asso de producteurs, hein, qui vont produire du porcin, du bovin, de l'agneau. On peut parler de filière intégrée presque, hein, parce qu'ils ont des producteurs, ils ont des transformateurs. Par exemple, nous, notre viande qu'on va acheter à BVB, c'est au Faouët dans le 56. Mais ils ont tout autour d'eux tout un lot de producteurs. Ils vont faire des contrats avec eux. Ils vont voir avec nous les différents vendeurs, différents magasins, nos besoins, toutes les semaines. Et ils vont, par exemple, au Fou, hein, l'abattoir du Fou. Donc, nos animaux, sont abattus au Fou et ils viennent de BVB. Donc voilà, une filière assez complète malgré tout.
Pour donc tout ce qui est viande fraîche, en fait, c'est ça, enfin,
ça parce pour que, la viande boucherie.
Ouais, boucherie, voilà. Parce qu'après, c'est vrai que la viande, ça peut être des transformations, de la charcuterie, etc. Bon, c'est encore autre chose, j'imagine. Non, BVB fait de la charcuterie aussi?
Alors non, après, eux, ils vendent des carcasses entières dans nos magasins. Nous, on peut transformer dans nos laboratoires.
Vous, en tant que Biocoop, c'est intéressant pour vous d'avoir des filières comme ça? Enfin, vous en cherchez en priorité ou...
On va dire que c'est rassurant d'avoir comme ça des entreprises qui sont performantes, qui peuvent répondre à nos demandes. Après, l'idéal, c'est le local, mais le plus local possible. Donc, on va aussi mettre en avant un producteur, bon, on est toujours dans le domaine de la viande, un petit producteur local qui va lui aussi, par exemple, utiliser l'abattoir du Fou, mais qui ne vendra pas à BVB, à Bretagne Viande Bio, sa viande, mais ira directement avec nous pour refaire un contrat et puis nous vendre.
Et en termes de prix, alors? On dit toujours le bio, c'est plus cher, mais est-ce que quand c'est de la filière très courte comme ça, c'est intéressant?
Effectivement, le bio, c'est plus cher, mais il y a des raisons, hein. Donc il faut le dire quand
allons-y,
même.
Allons-y.
Le producteur est mieux rémunéré, c'est la principale partie du prix du bio. Quand on travaille avec un producteur, on ne va pas forcément négocier le prix. On va écouter ses besoins, on va écouter son prix. Et on va, nous aussi, faire notre marge dessus, mais une marge raisonnable. Et la plus grande valeur ajoutée du prix du bio va à la production, il faut le dire.
Et ça, c'est le cas de Biocoop, mais c'est vrai que ça peut être différent dans d'autres grandes surfaces qui vont faire des marges plus importantes, par exemple, sur les produits bio, c'est ça?
Alors, bon, dans le monde de la bio, on dit qu'il y a le monde de la bio et le monde du bio. Le monde du bio, c'est le monde de la grande surface, on peut le dire. Le monde de la bio, ce seront les petits magasins qui font du bio, les magasins spécialisés, les producteurs, les AMAP. Voilà, ça c'est la bio, c'est la vraie valeur de l'agriculture biologique. Hein. C'est les coûts de l'humain, c'est les coûts de l'environnement, les coûts de la santé vers les autres, vers le commun.
Et donc les Biocoop se situent dans le monde de la bio et non pas du bio.
Et oui.
Bien que ça soit des grandes surfaces, enfin c'est des surfaces assez grandes en général.
Une surface moyenne, 500 mètres carrés, c'est pas si grand que ça. Les grandes surfaces, c'est 2000, 3000, 10000, hypermarché, supermarché, c'est différent.
Et pour en revenir aux filières, est-ce que vous avez vu émerger des filières ou renaître des filières ces derniers temps? Ou est-ce que vous sentez que ça va renaître? Bon là je sais qu'on va passer aux céréales, mais à part les céréales.
C'est plus compliqué. Actuellement, c'est plus compliqué. 2022, 2021, il y a des décroissances. Hein, donc, on est dans la descente. Alors, la décroissance, c'est particulier. Dans le monde de l'écologie, on a toujours prôné une décroissance. Maintenant, quand on attaque l'économie, c'est différent. Quand on a une entreprise, quand on s'occupe de l'humain, de l'économie, la décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de chiffre d'affaires.
Mais c'est peut-être une récession, c'est peut-être pas la décroissance, justement. Il faut peut-être changer de mot.
Ce qu'on aimerait, c'est la décroissance de ce qui impacte l'environnement, ce qui impacte la santé, mais une croissance de ce qui pousse vers le bon, vers le commun, vers l'humain. Ça, c'est une croissance une belle croissance. Et donc, une croissance du bio, c'est à chercher.
Et des filières nouvelles qui renaissent, non? Vous n'en avez pas vu ces derniers temps, enfin même
non.
En dehors de la crise très récente.
Actuellement, on est plus dans la volonté de maintien des choses en l'état. Déjà, on se maintient, on essaye d'avoir une économie saine. on voit peu de filières se créer dans un monde où, enfin dans un moment comme celui-ci qui est un petit peu anxiogène.
Mmh, trop incertain en fait quoi.
Oui. Mmh.
Et pourtant il y a des irréductibles comme Yves Canevet qui se lance, enfin qui essaye de monter. Vous essayez de monter une filière céréales ou blé ou quelle céréale déjà, parce que vous vos pains, il y a plein de céréales dans vos pains en fait.
Ouais, on utilise 6 types de céréales différents. Mais le blé reste quand même la céréale dominante pour faire le pain. Donc, voilà, quand on veut que ça pèse et que ça représente du volume, faut qu'on essaye de relocaliser la filière blé. Voilà, sur le sarrasin, sur le seigle, qui sont des céréales plus rustiques, ça, on arrive à s'approvisionner localement, mais ce sont des faibles volumes.
Oui, c'est ça, c'est des céréales qu'on met en plus, en fait, quoi.
Oui.
Et alors, le blé, racontez-nous, qu'est-ce que vous êtes combien à essayer de faire une filière bio-blé, comment vous faites, etc.
Ben disons que nous à la boulangerie Canevet, déjà on a une particularité, c'est qu'on est meunier et boulanger. Voilà, on a les deux casquettes, ce qui fait qu'on est déjà deux maillons de la filière à nous tout seuls, ce qui facilite aussi les choses. Et depuis 35 ans en fait qu'on existe, pour trouver des céréales bio de qualité, il fallait qu'on se tourne vers d'autres régions. Voilà, parce que la Bretagne, en fait, s'est spécialisée, comme on disait tout à l'heure, dans le légume, dans l'élevage, et a délaissé la fabrication de céréales de bonne qualité à des régions qui sont, dont le climat est peut-être plus propice. Voilà.
Ouais, ou la terre, ou les surfaces, peut-être.
La terre, pas forcément, mais voilà, le climat, disons que ça...
Qu'est-ce qu'il faut pour le blé, en gros?
Pour le blé, il faut voilà, des terres qui sont assez profondes et c'est vrai qu'il faut éviter qu'il y ait trop de pluie. Voilà.
Maintenant, il ne pleut plus en Bretagne, donc c'est bon.
Il pleut moins, voilà. Maintenant, il y a des solutions. Voilà, on peut aussi passer par du séchage quand c'est nécessaire. Donc, c'est tout de même possible, voilà, malgré le climat. Donc, c'est vrai que historiquement, ça s'est un peu perdu. Voilà, on fait de la céréale pour nourrir le bétail. Et la céréale, on va dire, de qualité, à haute valeur ajoutée pour les agriculteurs, ça s'est un peu perdu.
Et quand on voit du blé en Bretagne, enfin les rares fois où on voit du blé, ça veut dire que c'est un blé différent, enfin c'est pas un blé pour le pain en général
C'est généralement un blé fourrager.
Voilà. Ah ouais, pour les animaux.
Pour nourrir les animaux, voilà.
Et il y a quelques producteurs de pâtes au blé tendre, mais ça peut pas servir pour le pain, le blé tendre, c'est ça
Si, c'est du blé tendre qu'on utilise.
Okay.
Voilà, c'est du blé tendre qu'on utilise pour le pain. Et voilà, donc la filière, en fait, c'est un peu perdue en Bretagne. La culture aussi de comment faire un blé panifiable, c'est un peu perdu, voilà, dans le savoir-faire des agriculteurs. Donc, nous, on a eu cette volonté de relocaliser nos approvisionnements pour tous les avantages qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, il a fallu, on a commencé par échanger avec des organismes agricoles comme la Chambre d'agriculture, la Maison de la Bio, le Groupement des agriculteurs bio, pour fédérer un groupement d'agriculteurs qui sont motivés pour faire ces céréales, qui voient un intérêt, voilà, en termes de plus-value économique notamment, et voilà, échanger sur quels sont nos besoins, quelles sont leurs contraintes. Comment on va passer du champ jusqu'à notre moulin.
Donc c'est juste les pains Canevet qui ont lancé le mouvement. Enfin, vous n'aviez pas d'autres, des producteurs de pâtes, par exemple, qui sont mis avec vous pour l'instant, non, quoi.
Voilà, les producteurs de pâtes, il y en a quelques-uns qui sont... j'en connais un très bon, notamment Irviac, mais qui est paysan et pastier, donc qui est la filière, lui, tout seul. Dans notre démarche, on a voulu aussi élargir et trouver d'autres acteurs, d'autres meuniers, d'autres boulangers qui sont intéressés, parce que plus on est nombreux, plus ça va être facile. Voilà, vaut mieux jouer collectif pour se donner toutes les chances de réussir. Donc on a également, on peut parler de Jonas Le Gall, par exemple, dans le Sud Finistère, avec qui on réfléchit ensemble. Il est paysan meunier, et donc... on a essayé d'élargir même la réflexion au niveau... de la région Bretagne.
Oui, c'est ça, vous choisissez cette échelle régionale, quoi.
Voilà, ouais. Parce que ces questions-là se posent aussi dans d'autres départements. Voilà, et donc, en fait, on a réuni les différents maillons possibles de la filière et on s'est mis autour d'une table, on a beaucoup échangé, on a fait des essais. Et on se rend compte qu'on peut faire d'une très très bonne qualité de blé en Bretagne, voilà, malgré les a priori, parce que on a perdu l'habitude, on se dit non, c'est pas possible, parce que la preuve, ça se fait pas. En fait, quand on fait, on se rend compte, on analyse en laboratoire les qualités et on a des très très bonnes qualités de céréales.
Et j'imagine que les variétés, de toute façon, se sont améliorées, enfin, qu'on peut trouver du blé qui serait adapté à la Bretagne aussi.
Voilà, ça fait partie des travaux aussi de trouver des variétés, de tester différentes variétés qui sont adaptées au contexte breton.
Et les champs alors cultivés en blé tendre, c'était où alors, à quel endroit en gros quoi? C'était quel type de champ
Dans notre filière.
Ouais.
Voilà, ce qu'on a démarré, on a fait démarrer des partenariats avec des agriculteurs qui sont un peu partout dans le Finistère, que ce soit dans le Léon, zone légumière, ou centre Bretagne, même voilà vers Comana où on nous disait.
On fait aussi du lin d'ailleurs.
ça va être impossible de faire du blé dans les monts d'Arrée, ouais. Si, on fait un très bon blé. Et donc, c'est un peu partout. Voilà. Dans le sud Finistère, c'est autour de Jonas, voilà, il y a des essais également qui sont menés. Donc, voilà. Après, la difficulté qu'on rencontre quand on veut passer au-delà de ces essais et augmenter en volume, c'est que une filière, c'est aussi des outils industriels, ou des outils, on va dire... permettent de gérer du volume et il faut construire ces outils, des outils adaptés. Et donc
Par exemple,
par exemple, pour passer du champ jusqu'au moulin, ça va être des silos.
On n'a pas de silos tellement de blé en Bretagne.
Des nettoyeurs à céréales, donc il peut y avoir différents nettoyeurs et tout ce qui va avec. C'est le métier de la collecte et du stockage et du nettoyage de céréales. Voilà, donc il existe des outils, mais là encore, qui sont plus adaptés à des très gros volumes pour nourrir plutôt les animaux, mais pour faire du blé panifiable, il n'y a pas vraiment d'outils.
Et ces outils sont fabriqués en Bretagne éventuellement?
Voilà,
ils peuvent être fabriqués en Allemagne ou...
Voilà, les outils d'où ils sont fabriqués, ça va être plus dans des régions où il y a vraiment beaucoup de silos. Mmh. Donc on peut les acheter ailleurs, les machines, mais il faut monter ces outils et c'est des investissements. Et là, c'est une autre étape dans laquelle je suis, où on essaye de réunir encore, travailler collectif, trouver d'autres transformateurs de céréales qui sont partants pour aller dans l'aventure et investir collectivement dans des outils.
Ouais, parce que les outils comme les silos, les outils ou nettoyeurs de céréales, c'est plutôt le moulin qui les possède ou c'est plutôt l'agriculteur ou ça peut être en coopérative ou une ETA éventuellement
Il peut y avoir différents modèles et différents schémas, donc on travaille là-dessus. Il peut y avoir une partie du stockage chez l'agriculteur, une partie au moulin pour faire notamment les mélanges, les assemblages de blé. Il y a différentes possibilités, donc on essaye de trouver le bon curseur.
Alors ça a commencé quand l'expérimentation, le montage de la filière?
On a commencé il y a 4 ans.
Ah oui.
Donc cette année, on va avoir à peu près 10-15% de notre blé qui vient du Finistère. Et on a également des partenariats du côté de Rennes. Donc on aura cette année plus de 50% de notre blé qui sera breton.
Voilà. Combien de producteurs en gros ont testé sur leur champ?
Dans le Finistère, il y a une dizaine de producteurs. Et puis... le bassin rennais, c'est avec une coopérative bio qui s'appelle les Greniers Bio d'Armorique. Là, ils sont une vingtaine de producteurs.
Et ça a marché partout pareil ou est-ce qu'il y a quand même eu des coins de la Bretagne où ça a mieux marché, ça a mieux fonctionné?
Ça peut dépendre plutôt que du coin, ça peut dépendre d'une année sur l'autre. Voilà, on sait que cette année, il y a eu des conditions très difficiles.
Ah bon? Ah bah ça alors, et pourtant il n'a pas plu, je comprends pas.
Il n'a pas plu, on dit c'est bon pour la céréale, mais il en faut quand même un petit peu pour que la graine sorte de terre. Et donc là, chez certains agriculteurs, il y a eu quelques difficultés, même si globalement la qualité était bonne. L'année dernière, c'était plutôt un été très pluvieux, qui peut engendrer d'autres problèmes. Donc le climat joue beaucoup en fait sur la qualité.
Et vos expériences sur les outils, vous en êtes où? Les outils dont vous parliez, il vous faut combien de temps encore pour être...
Là, on démarre des investissements, on va dire, légers pour enclencher la filière et permettre d'écouler les céréales des premiers essais. On sent qu'il va falloir qu'on passe une étape en faisant un investissement assez important dans les 2-3 prochaines années. Donc, c'est notre objectif, de trouver des partenariats et aussi des accompagnements peut-être des collectivités pour,
oui, c'est ça.
Pour permettre ces investissements.
Et des partenariats peut-être aussi avec les points de vente, comme par exemple les Biocop.
Ben oui, alors vous allez trouver le pain de Yves Cadevet chez nous, bien sûr, dans notre magasin. Et d'ailleurs, il fait du très bon pain en graines de lin, voilà, que vous avez parlé du lin tout à l'heure.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, le lin, justement, on parlait d'une filière qui renaît à Comana. Donc, on va faire des essais aussi avec une filière textile qui se remonte à Comana. Donc, avec Guillaume Leture.
Le même, voilà.
On va essayer ces graines de lin dans nos pains pour voir si, même si son objectif premier, c'est le textile, voir si la graine de lin est de qualité satisfaisante pour être utilisé dans le pain.
Oui, parce que maintenant, avant, c'était vraiment des variétés distinctes, hein, variété textile, variété pour la graine, mais en fait, maintenant, apparemment, il y a des variétés hybrides, c'est ça, qui peuvent être...
Je ne connais pas bien encore, c'est lui le spécialiste, donc on va faire les essais, dégustations dans les prochains temps.
Ouais. D'accord. Nicolas Balanon, comment est-ce que les commerces comme le vôtre, enfin les Biocop, c'est en plus des commerces de poids quand même, comment est-ce que vous pouvez participer à des lancements de filières comme ça?
Eh ben, par exemple, au sein de la Maison de la Bio, on discute, on se rencontre avec le GAB 29 aussi, le groupement des agriculteurs biologiques. On discute, on essaye de mettre en avant les produits locaux, c'est la priorité. Voilà. Quand les producteurs viennent nous voir, les transformateurs, on discute prix très peu, on discute qualité produit et puis comment faire pour les mettre en avant. Et l'idée, c'est de développer le local au maximum. Mmh. On a parlé tout à l'heure de distance, d'énergie, d'impact sur les prix, d'emploi. Donc, une filière qui se crée, c'est une filière à soutenir, locale.
Ouais. Et vous, vos clients, justement, là, on parlait des difficultés de la bio en ce moment, vous avez, vous, dans les Biocop, est-ce que vous avez une clientèle fidèle, finalement, que rien ne détournera des Biocop, ou est-ce que vous avez senti quand même qu'il y avait une désaffection
Tout d'abord, les magasins Biocop, ce sont des magasins qui ont été créés il y a plus de 30 ans par des militants, donc des fidèles, donc qui ont des volontés de changer le monde, finalement. Hein, donc, ils avaient raison. Et puis, de plus en plus, on voit des clients qui sont soucieux de leur santé. Donc voilà, le militantisme, c'est moins une priorité pour eux, mais ils y viendront. On a l'espoir là-dessus que rentrer chez nous pour la santé, c'est aussi s'élargir à d'autres choses et s'élargir à la protection de l'environnement. Et puis leurs enfants, leurs petits-enfants, ils bénéficieront de tout ça.
Et comment est-ce que vous faites pour, j'ai peut-être employé un grand mot, mais éduquer les consommatrices et consommateurs, c'est-à-dire que, par exemple, leur faire comprendre que les fruits de saison, enfin les fruits, les légumes de saison, c'est quand même mieux que de vouloir à tout prix des kiwis en ce moment, mais ils viennent tous de Nouvelle-Zélande, quoi, en gros.
C'est pas toujours simple.
Ouais.
Effectivement, les militants écologistes de la première heure, ils sont au courant de tout ça, il n'y a pas besoin, et c'est même eux qui vont peut-être expliquer, même dans les rayons aux autres personnes, comment ça se passe et comment mieux consommer. Les personnes qui rentrent, la clientèle qui ne connaît pas, découvre sur place. Il faut discuter, il faut s'ouvrir, il faut communiquer énormément. Voilà, c'est pas simple. Ils ont une attente de consommation de tous les jours, comme ils voient ailleurs, comme ils ont consommé en grande surface. Il faut expliquer, c'est pas toujours simple de répondre à leurs demandes et qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas.
Et vous, en tant que donc offreur de produits, enfin vendeur de produits, est-ce qu'il y a des produits qui vous manquent vraiment, que vous aimeriez voir se développer en Bretagne?
Vous me posez une colle, j'ai pas réfléchi à cette question-là. Si on pouvait avoir des bananes, ce serait extraordinaire.
Est-ce que ce sera faisable? Mais peut-être.
Le jour où on aura des bananes chez nous, faudra s'inquiéter.
Parce que ça, c'est un produit qui est tout le temps demandé, quoi. C'est la banane.
C'est une des plus grosses ventes, ventes en fruits, bien sûr.
Ah ouais. Oui. D'accord. Et autre chose encore qui serait peut-être plus faisable, parce que je crois qu'il y a du thé, par exemple, qui est cultivé maintenant dans le Finistère.
Ça commence. Eh bien, peut-être qu'un jour on aura du vin.
Oui, ça aussi.
Ils ont commencé à planter de la vigne et c'est fort possible qu'on puisse vendre du vin blanc d'abord, mais oui.
Mm-hmm. D'autres encore, non?
Non, on a beaucoup de choses. Franchement, en local, en Bretagne, dans le Finistère, on a des filières, on a vraiment des producteurs qui sont assez complets par rapport à nos besoins. Hein, on pourrait se suffire. Ben, le sucre, évidemment non. Il y a des produits lointains qu'on a du mal à trouver localement. Mais globalement, on pourrait consommer quasiment local à 100% si on faisait des efforts sur certains produits. Oui.
Ouais, il faudrait peut-être renoncer à quelques produits, mais pas tant que ça, quoi, en fait. C'est
moins,
ça.
Moins de sucré, certainement, mais on pourrait vraiment subvenir nos besoins. Oui.
Ça serait meilleur pour la santé, de toute façon.
Manger moins de sucre, c'est toujours ça, mais quand même un petit peu de sucré,
oui,
ça fait du bien.
Bon, on a du miel, hein, au pire.
Oui.
Et Yves Canévet, juste un mot sur votre modèle de montage de filière de céréales. Est-ce que c'est suivi par d'autres producteurs, d'autres produits? Est-ce que ça, cette expérience est intéressante?
On a entamé une réflexion au sein de la Maison de la Bio, au sein du Collège Transformateur, voilà, qui sommes justement le maillon qui va transformer les produits bruts pour en faire des produits transformés vers les magasins. On réfléchit à sur quelle filière élargir, sur là où il y a peut-être des maillons qui manquent, essayer d'appuyer pour trouver des solutions et voilà, compléter les filières et faciliter le circuit court du producteur jusqu'au magasin. Voilà.
Ouais, donc vous partez de ce qui existe déjà pour l'améliorer, en fait, quoi.
Voilà,
c'est ça. Et c'est quoi les autres produits, par exemple ?
Voilà, on sait que sur la viande, par exemple, voilà, un producteur qui veut transformer en circuit court, souvent, il n'a pas tous les agréments pour abattre et transformer. Donc, il y a un abattoir au fou, mais sur certaines parties du territoire, ça manque un petit peu. Voilà, des bouchers transformateurs, en fait, au service des producteurs. Voilà, après sur les produits légumes également, en fait, en transformation de légumes, pour passer du produit brut à des produits un peu plus transformés, il y aura sans doute des ateliers à monter.
Bon, on lance des pistes pour s'il y a des gens qui nous écoutent et qui cherchent des idées pour monter des boîtes bio de transformation. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Et puis merci à la Maison de l'Agriculture Bio qui nous envoie des adhérents intéressants. Et vous pourrez réécouter, bien sûr, cette émission sur le site internet de Radio Évasion. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.